Ma mère m'a affirmé plusieurs fois « C'est toi qui fais l'homme avec ta petite copine ». À chaque fois, cette phrase s'accompagne d'un sourire qui dit « Je t'ai compris, ma fille, et je t'accepte comme tu es ». Ça a vraiment le don de m'horripiler. Non, maman, je ne suis pas le garçon manqué qui vient remplacer l'homme manquant dans mes relations affectives. C'est peut-être parce que toi, tu sors avec des mecs depuis toujours que tu vois tout en rose et bleu. Mais ne m'impose pas ta vision réduite des choses, s'il te plaît. Et puis enlève ses œillères, c'est moche. Il y a un an cependant, Clotilde est entrée dans ma vie. La première fois qu'on s'est embrassé, elle a plié les genoux pour se rapetisser. Moi, je me suis hissée sur la pointe des pieds, de sorte que c'est moi qui la prenais dans mes bras, et pas l'inverse. Après l'amour, j'ai écarté grand les bras pour faire une place à sa tête sur mon épaule. Et puis avant de dormir, je l'ai serrée près de moi en cuillère. Moi, grande cuillère, elle, petite cuillère. Dans les premiers temps de cette relation, je me suis dit que j'avais été un peu dure avec ma mère. Il n'y a pas que les hétéros qui se sentent obligés de nous mettre dans les cases masculin-féminin. Les homos aussi sont aux prises avec une hétéronormativité envahissante jusque dans leur intimité. C'est relou, parce que j'ai cru qu'en étant queer et lesbienne et féministe, j'étais libérée des rôles genrés dans mes relations amoureuses. Mais non. Monique Wittig l'avait pourtant prédit dans les années 70. L'hétérosexualité n'est pas seulement une préférence sexuelle. C'est aussi un système politique qui régit notre société et nous empêche de penser en dehors des catégories binaires, hommes, femmes. Tellement naturalisées, ces catégories « complémentaires », avec plein de guillemets, nous invisibilisent, nous discréditent, nous autres personnes non hétérosexuelles. Deux options s'offrent donc à nous. Avoir honte parce qu'on n'est pas normal, ou alors essayer d'être normal, en jouant à Hétéroland. Pour ce podcast, j'ai choisi d'interroger quatre amies sur leur rapport à l'hétérosexualité. Le fait qu'elles soient lesbiennes, queer, homosexuelles ou bisexuelles leur permet-il de s'extraire de l'hétérosexualité comme système? Si leurs expériences, leurs vécus sont très différents, leur réponse à cette injonction à l'hétérosexualité est toujours la même. Non. Être queer à Hétéroland. Ce que l'hétéronormativité fait aux relations queer. Épisode 1, Laura et Anna.
Je m'appelle Laura, j'ai 28 ans, je suis une femme cis, blanche et lesbienne. On m'a déjà posé la question de est-ce que c'est moi qui fais le mec avec ma copine ou l'inverse. Donc on m'a posé cette question-là quand j'étais plus jeune et donc peut-être pas, j'avais pas le même background politique, j'étais pas autant informée sur toutes ces questions-là. En fait, ce qui est assez problématique dans cette question, c'est qu'on dirait que les gens n'arrivent pas à se détacher de l'hétéronormativité. Donc, c'est-à-dire que les gens pensent uniquement les relations, même homosexuelles, comme s'il fallait absolument qu'il y ait un homme et une femme. Donc, je pense que la grosse problématique là-dedans, c'est la pénétration. Et généralement, les gens qui posent ces questions, c'est des hommes hétéros. Voilà. On va pas se le cacher. Moi, à chaque fois que j'ai entendu des propos comme ça, c'était des hommes hétéros. Je pense qu'ils se sentent un peu menacés en fait par le fait qu'on puisse avoir une sexualité en dehors de la pénétration. Et il faut absolument qu'ils sachent s'il y en a une qui pénètre l'autre. Parce que je pense que leur imaginaire est aussi beaucoup dominé par le porno. Et quand on regarde le porno lesbien mainstream, elles font un peu touche pipi pendant 5 minutes et puis après il y a un gros god qui arrive, comme si finalement il n'y avait pas d'autres sources de plaisir que la pénétration vaginale. Or on sait que c'est complètement faux. C'est encore un mode de pensée ultra binaire quoi. Je pénètre, je suis un homme. Je me fais pénétrer, je suis une femme. C'est des catégories en fait qu'il faut complètement casser et déconstruire. Je pense vraiment que ça vient du cul. Et je pense qu'il peut aussi y avoir d'autres choses, notamment dans les rôles sociaux. Par exemple, si c'est quelqu'un de très traditionnel, peut-être que ça veut aussi dire genre qui ramène l'argent à la maison, ou des choses comme ça. Mais je pense que, en tout cas, la manière dont je conçois les choses, c'est que ça va venir premièrement toucher à la sexualité. Pour moi, les gens qui sont dans ce paradigme-là, de penser qu'il y a forcément un homme et une femme dans une relation, ça a trait à l'hétéronormativité, en fait. L'hétéronormativité, c'est une norme sociale où on va considérer que le modèle dominant, donc le couple hétérosexuel, C'est vraiment le modèle qu'il faut absolument suivre. Donc il y a un homme et une femme certes, mais l'homme et la femme dans le couple ont des rôles bien définis. Généralement c'est l'homme qui va être plus dominant, c'est l'homme qui va... Donc c'est très cliché ce que je dis, hein, mais il y a encore beaucoup de gens qui pensent comme ça malheureusement. L'homme doit ramener l'argent à la maison, c'est les femmes qui vont plus s'occuper des enfants, etc. etc. C'est un ensemble d'éléments en fait, qui va définir les rôles genrés à l'intérieur du couple, mais aussi quand ce sont des personnes qui ne sont pas en couple, qui sont des personnes célibataires, pour séduire les personnes du sexe opposé, on va devoir s'assigner des rôles bien définis. Un truc tout con, par exemple, si... imaginons que je sois hétéro, truc qui n'arrivera jamais. Si je vais en date avec un mec, l'hétéronormativité, ce serait quoi? Ce serait que le mec me paye un verre, tu vois, et tout le monde trouve ça normal. D'où tu vois, c'est juste que ce sont des normes qui ne sont pas du tout, qui sont pas du tout écrites, mais qui sont complètement tacites dans la société et que énormément de gens acceptent et ne remettent pas en question. Moi, je suis une femme, j'ai un rôle plutôt passif. On m'offre des verres quand je fais l'amour, bah, je me fais pénétrer et c'est très bien comme ça, tu vois. À l'inverse, l'homme, il va avoir une posture beaucoup plus dominante, il va pénétrer, il va devoir prouver que il est viril, il est truc, il est machin, et sans jamais remettre ça en question. On parlait de sexualité, mais aussi donc notamment la charge mentale, qui est un concept qu'on utilise beaucoup, en tout cas sur les réseaux sociaux et dans les milieux féministes depuis quelques années, mais des choses un petit peu plus subtiles et pernicieuses comme la charge émotionnelle. C'est-à-dire que, en tout cas, dans mes amis hétéros qui me parlent de leur relation, c'est beaucoup plus elles qui vont avoir la charge de la communication ou de savoir comment leur partenaire va, d'essayer de leur tirer les vers du nez. Parce qu'en fait, généralement, ces hommes-là n'ont pas du tout été socialisés, élevés à s'exprimer. Et donc, du coup, il peut y avoir des espèces de blocages dans la relation si la meuf ne fait pas l'effort, en fait, vraiment de demander ce qui se passe. Peut-être que les femmes qui ont été élevées à avoir plus d'empathie et à communiquer beaucoup plus sur ce qu'elles ressentent, auraient aussi à gagner à ce que leur mec puisse communiquer de manière beaucoup plus fluide. Je pense notamment à une amie qui doit vraiment tout le temps ramener en fait le mec à la conversation parce qu'il essaye de fuir ça, parce qu'il a pas du tout été socialisé comme étant quelqu'un qui peut laisser libre cours à ses émotions et à les exprimer parce que justement ça fait trop fille. Ça c'est quand même un problème. Il y a beaucoup trop de poids en fait qui repose simplement sur les femmes. On peut aussi parler de ces charges en termes économiques. Donc c'est-à-dire que s'il y a une femme qui fait le ménage, bah, si c'est son travail, elle va être payée. Sauf que là, à la maison, elle n'est pas du tout payée. Pareil pour la charge émotionnelle. En fait, ça s'appelle une psy quand tu fais ce travail-là. Et à aucun moment on va rémunérer ces personnes, alors que ça peut faire aussi partie de tout un travail qu'elles font à la maison et qui est totalement invisibilisé. Et généralement, ça repose uniquement sur les femmes. J'ai fait mon coming out en tant que meuf lesbienne quand j'avais 16 ans. Donc du coup, je pense que j'ai une socialisation aussi en tant qu'adolescente lesbienne, qui m'a permis en fait de vite interagir avec des femmes en termes romantiques et sexuels. L'hétérosexualité, je ne l'ai jamais trop vécue, c'est extrêmement anecdotique, on va dire, et j'ai l'impression vraiment d'être assez éloignée, en fait, en tout cas quand j'entends mes copines hétéras qui parlent, je suis assez hallucinée de ce qu'elles me racontent, et parce que moi je ne vis pas du tout en fait la même chose avec les femmes. Et donc l'hétérosexualité, ça me paraît assez lointain. Mais en revanche, voilà, quand je me balade dans la rue, quand je vais au cinéma, quand j'écoute de la musique, ben, l'hétérosexualité, elle est absolument partout. Je suis en relation depuis presque 2 ans et demi, donc avec une femme cis. Et quand on s'est rencontrés, en fait, elle était sortie il y a quelques mois en fait, de l'hétérosexualité. Et c'est marrant parce que maintenant, de plus en plus, je me rends compte que elle se transforme physiquement et psychologiquement au plus on sort ensemble, dans le sens où avant elle avait une apparence, elle avait un passing hétéro, enfin, on pouvait pas vraiment deviner. Et de plus en plus, par exemple, elle s'est rasée le crâne ou elle s'habille de plus en plus en mode balai-couille, alors qu'avant elle faisait très attention, elle se maquille plus. En fait, il y a toutes ces petites choses où en fait au début j'avais beaucoup plus l'impression, par exemple, d'avoir vraiment le rôle entre guillemets plus masculin, parce que moi ça fait très longtemps du coup que je me considère comme lesbienne. Et elle était encore en questionnement sur son identité. Et donc moi qui étais extrêmement sûre de qui j'étais, tout bêtement, je lui ai fait lire Monique Wittig. Je lui ai envoyé énormément de podcasts, etc. pour qu'elle puisse aussi se chercher. Je trouve que maintenant, les rôles sont beaucoup moins binaires. Là où au début, j'avais un peu plus l'impression, entre guillemets, d'être la composante masculine de la relation. Maintenant, c'est assez interchangeable, finalement. On a des énergies qui se complètent assez bien. Là, par exemple, elle fait une formation d'agriculture. Bah ouais, en fait, quand je suis chez elle et qu'elle rentre à la maison, elle est en mode grosse polaire, toute dégueulasse, et moi, j'ai fait à manger. Bon, bah, je pense que les rôles ont un peu switché, quoi. Ou quand on fait du sexe et que on a des pratiques sadomaso, où moi je vais souvent dominer et elle être dominée, il y a encore un basculement finalement des normes de genre qui s'opèrent, où généralement c'est l'homme qui va dominer et la femme qui va être soumise. Là par exemple, même si elle est rentrée en mode grave dégueulasse de son truc d'agriculture, elle a fait des semis, cambouis sous les mains parce qu'elle a fait de la mécanique et tout, et que j'ai fait à manger, au lit on va encore échanger ça. Et donc en fait c'est ça qui est super intéressant quand t'es en relation non hétéro, c'est que j'ai l'impression que ces normes de genre sont beaucoup plus fluides au niveau du moment de la journée, mais aussi de ton état psychologique. Je relationne aussi avec une autre personne qui là pour le coup est sortie de l'hétérosexualité ça fait 2 mois. Ça n'a absolument rien à voir, parce que du coup cette personne-là a été socialisée comme une meuf hétérosexuelle pendant 28 ans. On lui a fait bouffer de la culture, de la musique, elle draguait beaucoup de mecs sans se poser de questions, etc. Et là en fait de se retrouver avec une femme, ça a changé énormément de choses, elle était complètement perdue, parce que là du coup les codes hétérosexuels ne marchent plus, les codes de séduction, mais aussi au niveau de la sexualité. Concrètement, ça ne marche pas du tout pareil, même si ça reste de corps ça reste de corps nu, quoi, mais ça marche pas du tout pareil. Au début, elle se demandait un petit peu quoi faire, donc là, j'ai dû lui montrer comment on faisait parce qu'elle était perdue. Et donc là, j'avais un rôle carrément de dominant, entre guillemets, donc beaucoup plus assigné au masculin. Et aussi, dans nos manières de relationner en dehors du sexe, c'est moi qui dois lui montrer, encore une fois, les codes, parce qu'elle n'y connaît rien du tout. L'introduire un petit peu à ce milieu-là, et j'ai clairement ce rôle de dominant, mais j'espère que ça va changer. Parce que ça ne me plaît pas spécialement, je pense que c'est un état un peu transitoire, en fait. C'est assez marrant, en fait, de voir les grosses différences qu'il y a quand tu relationnes avec des meufs bi, avec des meufs lesbiennes, ou avec des meufs... baby gay, tu vois, qui viennent en fait de découvrir leur queerness, ça change énormément de choses. Alors si j'utilise beaucoup ces mots de masculin, féminin, c'est déjà pour être clair. Je pense que c'est beaucoup plus facile en fait d'utiliser ces termes pour que les gens visualisent de quoi je parle, tu vois. Même si dans l'idéal, je pense qu'il faudrait complètement détruire ces normes de genre là, mais on n'y est pas encore. Le genre féminin et le genre masculin sont extrêmement essentialisés. Et donc si on veut un petit peu sortir de ces normes de genre, il faut d'abord les nommer pour qu'on sache ce qu'on veut dépasser. Évidemment, ces catégories toujours entre guillemets de femmes et hommes sont extrêmement limitantes. Et finalement, quand on sort de l'hétérosexualité et qu'on commence à avoir des relations hors de cette catégorie-là, on peut aussi inventer nos propres normes sans se dire que si je fais le ménage, c'est moi la femme, si je pénètre, c'est moi l'homme. Je pense également qu'il ne faut pas non plus tomber... dans un travers de sciences sociales, et je suis bien placée pour le dire parce que c'est mon domaine, de tout penser en termes de structure, et que si on a tel comportement, c'est à cause d'une structure sociale. Je pense que ça relève aussi de l'éducation qu'on a eue, mais aussi de nos personnalités, de nos goûts. On peut avoir le goût de faire la cuisine ou le goût de faire le ménage sans pour autant qu'on soit considéré ou qu'on se considère soi-même comme une petite femme au foyer. Et je pense qu'il ne faut pas toujours, à mon sens en tout cas, tout suranalyser en des termes féministes, mais qu'on peut aussi laisser une place à l'individualité là-dedans.
Je m'appelle Anna, j'ai 25 ans, j'habite à Paris pour le moment, et je sors avec des garçons principalement, et aussi avec des filles des fois. En ce moment, je sors avec un garçon depuis un an et 4 mois, quelque chose comme ça. Je suis sortie avec une fille qu'on appellera Marie. C'était il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans. Et on est sortis ensemble 2 fois 2 mois. Et c'était la première fille avec qui vraiment je me mettais... Enfin, je sais pas si on s'est déjà dit vraiment qu'on était en couple, mais on était ensemble, quoi. Sinon, j'ai déjà eu des histoires avec des filles, mais c'était des histoires... Je me mettais pas avec ces personnes, en fait. C'était plutôt des petites histoires. Je retiens surtout notre début de relation, notre rencontre et les moments très forts qu'on a passés ensemble, où on était très dans la découverte l'une de l'autre et très amoureuses l'une de l'autre. On s'est rencontrés sur un tournage où moi j'étais un court-métrage qu'on a tourné pendant l'été et moi j'étais chef-op et donc je faisais l'image et elle travaillait à la régie, donc elle s'occupait de l'organisation. Et en fait, ce qui m'a plu chez elle, c'est aussi sa capacité de travail, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui bosse énormément et qui a une très grosse présence et qui est très... et qui travaille très bien et qui prend de la place, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que tu vois qu'elle, en fait, parce qu'elle est très forte dans ce qu'elle fait, elle a beaucoup de charisme. C'était très différent de sortir avec un garçon, parce que je me sentais plus libre et je me sentais aussi... En fait, je pense qu'il y avait une sorte de connivence entre nous que j'avais jamais vraiment expérimenté avec des garçons. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait une connivence parce qu'on était des filles aussi, tu vois. Genre, le fait de sortir ensemble, c'est comme si on était un peu seuls contre tous. Tu vois, il y avait quelque chose de très magique un peu, tu vois. Genre, quelque chose d'extraordinaire, mais même au sens littéral, quoi. Extraordinaire, quoi. Je pense qu'il y avait quand même des traces d'hétérosexualité. Enfin, dans le sens où moi, je suis sortie avec des garçons, donc j'ai construit mes premières histoires et même... Toute ma vie s'est construite autour de ça, en fait, des relations hétérosexuelles. Et du coup, le fait de sortir avec une fille, c'est comme si on rejetait les dés, tu vois. Genre, les dés étaient de nouveau jetés et qu'on pouvait découvrir des nouvelles choses et du coup, inventer des nouvelles choses ou s'installer dans de nouvelles choses. C'est pas pour ça qu'il n'y avait pas de stigmate de ça, notamment parce que moi, je suis sortie avec des garçons et que du coup, quand tu sors avec des garçons et qu'après, tu sors avec une fille... t'es habitué à fonctionner avec un garçon et tous les garçons sont différents, mais en fait malgré nous il y a des schémas qu'on retrouve, il y a des choses qu'on retrouve et du coup c'est comme si on était un peu marqué par quelque chose et du coup quand tu sors avec une fille tout ça ne s'efface pas, en fait, tu vois. Marie, c'est quelqu'un qui avait l'air, tu vois, qui était, donc comme je l'ai un peu dit, très charismatique, très, tu vois, très puissante, qui travaille très bien et qui dégage quelque chose de très, très fort, tu vois. Et en fait, aussi dans notre vie quotidienne, quand on a commencé à sortir des premières semaines de rencontres et qu'on a commencé vraiment à se voir en dehors, je me suis rendu compte aussi que c'était beaucoup de façades, tu vois, et que elle était très fragile. En fait, c'était quelqu'un de très, très fragile et qui allait pas forcément très bien tout le temps. Et je pense que c'est intéressant parce que je suis sortie avec des garçons. Et avant ça, je suis sortie avec des garçons. Après ça, je suis sortie avec des garçons. C'est que, en fait, elle exprimait beaucoup, justement, ses sentiments et ce qu'elle ressentait. Et ça, c'était quelque chose qui, au début, me plaisait parce que c'est aussi pour ça qu'on a pu partager beaucoup de choses, tu vois, qu'on a écrit, qu'on s'est raconté énormément de choses. Et en même temps, que quand ça allait dans le négatif, c'est-à-dire dans le mal-être, dans la déprime, voire la dépression, tu vois, en fait, je ne le supportais pas, en fait. J'ai remarqué que moi, je prenais énormément de place dans mes relations hétérosexuelles. À raconter effectivement ce qui va pas, ce que je ressens, même si je raconte pas tout, mais en fait je prends énormément de place, tu vois. Enfin, là je me pose vachement la question, c'est peut-être pas dans le sujet, mais tu vois, je me dis, mais en fait à un moment donné moi aussi je peux sortir de ce rôle là, c'est-à-dire de dans mon couple hétérosexuel, tu vois, d'être moins tout le temps à prendre une place émotionnelle, tu vois, genre à envahir les autres de mes problèmes, de mes malheurs qui sont concrets, mais aussi qui existent parce que, et qui se disent autant parce que c'est aussi comme ça qu'on assigne un peu les rôles dans l'hétérosexualité, genre la fille qui va raconter, nanan, le garçon qui va un peu encaisser, tu vois. Je pense que a posteriori d'être sortie avec Marie et maintenant d'être de nouveau dans une relation hétérosexuelle, bah, du coup, je fais des comparaisons, tu vois. Je compare, je repense à comment c'était avec Marie, et je repense pourquoi je suis partie et pourquoi là, je reste dans cette relation hétérosexuelle-là. Et du coup, je me dis, j'ai un problème avec le fait de, d'entendre la souffrance de l'autre, tu vois. Et du coup, bah, peut-être aussi, j'ai l'impression que si je retourne avec une fille, peut-être que je devrais réentendre une souffrance parce qu'elles savent mieux la dire, entre guillemets, tu vois, ou qu'elles acceptent de la dire. Malgré tout, ce que j'ai vécu avec Marie, je l'ai vécu avec personne d'autre. Peut-être parce que c'était court, peut-être parce que c'était juste une histoire brève d'amour, tu vois, très passionnelle, et que c'était pas, on s'est pas installé dans un quotidien parce que j'ai pas voulu de ce quotidien-là. Donc du coup, peut-être que maintenant je fantasme mes relations avec des filles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ma relation, là, en ce moment, des fois, je me dis, je veux sortir de ça, je veux sortir avec une fille, tu vois. Comme je suis sensible au féminisme, au fait de déconstruire les choses, enfin, je suis pas une spécialiste du tout, tu vois, mais je suis sensible et genre, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Je culpabilise, tu vois, de sortir avec des garçons, en fait. Enfin, des fois, je me dis, mais en fait, je reproduis des schémas, je sais pas, dans mon quotidien, ou tu vois, genre, j'ai une place qui est, en fait, toute tracée, ou des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que j'avais l'impression qu'en sortant avec Marie, j'avais l'impression que, justement, j'avais pas de chemin tout tracé, que du coup, je pouvais pas culpabiliser, vu qu'en fait, bah, c'était que de la découverte et que on avançait à deux, tu vois. Il y a quelque chose de plus libre. C'est peut-être un peu fictif de penser que parce qu'on sort avec une fille, bam, on n'est plus dans les schémas hétérosexuels. Parce que Marie, c'était quelqu'un qui était assez dans le lead, tu vois, qui leadait beaucoup, donc qui guidait beaucoup les gens, les choses avec beaucoup de charisme. Et que c'est vrai que moi, c'est quelque chose, je pense, qui me plaît comme trait de caractère. C'est pas de prime abord ce que je recherche chez les gens, mais je pense que c'est quelque chose qui m'attire. Et le fait d'être l'idée dans une relation, je l'acceptais beaucoup plus parce que c'était une fille, alors que d'être l'idée dans une relation par un garçon, bah, c'est quelque chose peut-être qui me plaît, mais en fait dont je culpabilise, en fait. Parce que je me dis, ah ben voilà, c'est le schéma classique d'être l'idée par un garçon, et que du coup, il faut pas que je prenne du plaisir là-dedans. Enfin, tu vois, genre, il faut que je lead. Et ça m'a vraiment libérée de quelque chose, de sortir avec elle sur le moment. C'est-à-dire qu'il y avait plein de questions qui me troublaient ou qui m'encombraient, qui se posaient plus. Donc, et notamment aussi dans la sexualité, où en fait... j'ai eu des moments bien plus apaisés et bien plus... je sais pas si j'ai ressenti plus de plaisir, mais en tout cas, il y avait plus d'apaisement en faisant l'amour avec elle qu'en faisant l'amour avec quiconque. J'avais l'impression que les rôles étaient moins... Enfin, en fait, on était moins dans des schémas obligés. Enfin, tu vois, c'est pas de l'obligation, mais genre évident, en tout cas. Enfin, pour moi, c'était moins évident de faire l'amour avec une fille parce que je l'avais jamais fait. Après, c'est vrai que, par exemple, je sais que moi, j'ai ressenti au bout d'un moment, même si ce qui est bien, c'est qu'il y a eu du coup beaucoup de... quand on faisait l'amour, je me suis laissée beaucoup plus aller, ou tu vois, genre, j'ai vécu des moments plus fusionnels, et qu'en même temps, assez rapidement, j'avais de nouveau envie d'être dans quelque chose de l'ordre de la domination, enfin, d'être dominée. Et ça, je l'ai jamais... elle l'a jamais proposé, et moi, j'ai jamais demandé, tu vois. Mais ça me manquait. Alors qu'en fait, c'est quelque chose que je retrouve plus vite avec un garçon, parce que c'est des schémas aussi classiques, tu vois. Genre, d'être dominée, et c'est ça que je recherche, tu vois, pour le moment. Du coup, quand je suis dominée, quand je me mets dans une position de dominée en termes de sexualité, et dominée dans un couple hétérosexuel... Eh ben, il y a une part de moi qui culpabilise aussi, parce que je me dis, bah, encore une fois, c'est le schéma assez classique quand même, et du coup, bah, c'est con, mais je culpabilise. Ça me fait chier de rester dans des codes qui sont établis et que l'on voit, et que tu vois, et que l'on voit, qu'on le retrouve dans les films, dans le porno, dans tout plein de choses, et que c'est ça qui m'excite, tu vois. Du coup, en fait, le problème, c'est de, en même temps, déconstruire et en même temps de s'accepter. Enfin, tu vois, genre, tu te poses la question, tu te dis, est-ce que t'as envie d'être dominée parce que t'as vu que des schémas comme ça, ou est-ce que bah il y a quelque chose en toi ou dans ton histoire ou je sais pas quoi qui fait que t'as envie d'être dominée et ok, tu vois. Mais le problème, c'est de savoir pourquoi. Et en fait, des fois, il faut pas, enfin, faut peut-être pas savoir pourquoi. Genre, il faut juste aussi vivre les choses et juste se dire, bah ok, j'ai envie de me faire dominer, ça me fait du bien. Et ben, tant pis. Enfin, genre, en fait, fais-toi dominer, quoi. Tu vois.
C'était le premier épisode d'Être queer à Hétéroland, un podcast d'Anaïs Suire et une création sonore d'Alexis Fernandez et Mona Fella. À suivre dans le second épisode, Théodore. Merci à Laura, Anna, Théodore et Mona pour leur témoignage et leur confiance. Merci à Radio Moulin aussi pour l'assistance au montage, le prêt de matériel et le regard toujours bienveillant. Merci enfin à Sidonie Adou pour ses super conseils.